Bonjour, merci d'être là parmi nous. Donc, cet enregistrement, juste pour préciser, n'a pas lieu en direct parce que tu ne peux pas venir ce jour-là. Donc, du coup, merci déjà de participer à cette émission Briser le silence. Et ton témoignage, en tout cas, il est vraiment précieux pour nous. Et déjà, donc, merci de ta présence. Et tu vas nous raconter un peu ton histoire, ton enfance et ce que tu es aujourd'hui dans ta reconstruction. Est-ce que tu es prêt à nous livrer? Je sais que ça va pas être facile.
Oui, il n'y a pas de souci.
Y a pas de souci? Allez, je t'écoute.
Ben, écoute, ouais, bon, aujourd'hui j'ai 53 ans, bientôt 54. Donc je suis né sur une petite île à la Martinique, voilà. Et je suis métisse, mon père étant métropolitain, ma mère martiniquaise. Et c'est vrai que bon ben par rapport à ça. J'ai vécu un peu de façon particulière parce que, ben, pour entrer un peu dans le vif du sujet, j'avais pas, au dire de mon père, le droit de jouer avec les petits nègres, parce que c'était son terme, alors que lui avait fait un enfant avec une négresse. Voilà, pour parler clairement et posément et surtout aussi direct que possible. Donc c'était quelque chose qui était un peu particulier. J'avais des réprimandes par rapport à ça. Voilà, j'ai été battu. Voilà. Ensuite, c'était une façon de fonctionner qu'il avait qui était assez autoritaire. J'avais pas le droit à la parole. Si je parlais à table, je prenais un revers. Il portait des chevalières, ce qui fait que bon, parfois j'étais un peu blessé. Ça arrivait aussi. Voilà. Après, avec ma mère, il était particulier aussi dans le sens où ben, je l'ai su que plus tard parce que dernièrement j'ai dû repartir sur mon île voir ma mère. Mais il a imposé à ma mère à un moment donné une étudiante alors qu'il était en couple avec ma mère et qu'il avait deux enfants en bas âge, donc ma sœur et moi qui est d'ailleurs toujours handicapée. Et donc ça a été très compliqué et conflictuel. Et voilà, c'est des choses qui laissent des traces. Et effectivement, on peut être enclin à répéter ses erreurs, ou même à ne pas dépasser son maître et à copier-coller ce qu'il a pu faire. Et ça, c'est même dangereux, je vais dire. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un point d'honneur à ne pas être, absolument pas être comme lui, parce que ben, pour moi ça n'a pas été un bon exemple, même si c'était quelqu'un de suffisamment intelligent, mais pour moi c'est pas un bon exemple. Au niveau familial, c'était destructeur, quoi. Donc aujourd'hui je ne répète absolument pas ce qu'il fait. Moi, mon éducation, elle n'a rien à voir. Voilà, il n'y a pas cette violence. Il y a explication sur tout. On fait des réunions pour expliquer le problème, pourquoi ça ne va pas. On essaye de, voilà, que tout le monde ait le droit à la parole et que ce soit pas à sens unique. Parce que voilà, le problème c'était le sens unique. Quand il y a un seul chef et que tous les autres doivent se soumettre, c'est la dictature, hein, en fait. Donc voilà. Bon, je sais pas, mais pose-moi des questions si tu veux.
Du coup, tu expliquais depuis mineur, tu as reçu des
Ah,
coups.
oui, bien sûr.
Et comment, à quel moment, en tout cas, tu t'es rendu compte que c'était pas normal?
Ah ben ça a été. Ah ben c'était. Je peux le raconter sans aucun problème. C'est à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie aussi. Donc du coup, ma mère, pour ma sœur qui est handicapée, est partie en métropole, pour qu'elle soit dans un centre, parce qu'il n'y a pas de centre en Martinique à cette époque-là. Donc elle est partie d'abord avec ma sœur. Nous, on est restés un an tous les deux. Donc ça a été compliqué aussi. Voilà. Parce que un fait qui était notable tout de même, c'est que il a fallu que j'apprenne l'alphabet en une seule après-midi. Alors, au risque de choquer tout le monde, mais à coups de ceinturon, toute une après-midi, à l'extérieur. Et c'est vrai qu'au bout de l'après-midi, à force de se faire taper, tu te rappelles.
Okay.
de l'alphabet. Voilà.
Parce que du coup, tu suivais pas forcément l'école, là, c'était à quel âge?
Ah ben, déjà, j'étais suffisamment, on va dire, je pense que quand t'es enfant, que tu subis ça, t'es perturbé, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'apprentissage n'est pas, même si tu as des capacités, tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu as des problèmes dans ta famille qui font que ça te pèse trop, même enfant, quoi. Inconsciemment, tu es alourdi par cet état de fait, tu vois. Donc, voilà. Pour moi, c'est ce qui s'est produit. Après, donc, pour en revenir à l'arrivée en métropole, donc nous, on a rejoint après ma mère et ma sœur. Et donc, arrive ce moment où, à mes 14 ans, j'étais en train de faire des devoirs. Et mon père me dit, oui, tu descends, on va jouer au frisbee avec ta sœur. Moi, je dis, non, papa, et tout, je dois faire mes devoirs pour demain, j'ai des devoirs à rendre demain, et tout. J'avais 14 ans. Hein. Et il me dit, non, tu descends tout de suite, et tout. Donc, il s'en va, il descend avec ma sœur. C'était ensoleillé, je me rappelle très bien. Et donc, il prend un parasol, il prend le frisbee, et il descend avec ma sœur. Donc, moi, je descends, je sais pas, genre 10 minutes après. Et quand je descends, il m'attendait en bas, avec le parasol. Et il m'a mis un coup de parasol au niveau du menton. Et j'étais ouvert, en fait. Et après, il m'a mis juste, ouais, je me rappelle, un papier comme ça pour que je puisse éponger. Et après, il a fallu que je joue au frisbee quand même avec le menton ouvert.
D'accord.
Voilà, donc ouais, c'était super sympa. Mais à 14 ans, t'as pas la même réaction que, tu vois, tu commences à t'émanciper, tu vois. Donc, je sais pas, 2 ou 3 jours après, il s'en va en ville et je parle avec ma mère. Je dis, moi, écoute. Moi, là, tu as vu ce qui s'est passé. Moi, j'en peux plus. Donc, c'est soit tu restes avec lui, ou soit tu viens avec moi, mais moi, je m'en vais. Donc, tu choisis. Et elle a choisi de suivre son fils et de le protéger quelque part, parce qu'elle était quand même témoin de beaucoup de choses, et voilà, et qu'elle a vu et qu'elle pouvait rien faire de toute façon. Donc, là, elle m'a suivi, on est parti, on l'a quitté. Avec ma sœur, on s'est fait héberger, je crois que c'était chez les sœurs à l'époque, et en urgence, et voilà. Et après, ben.
Et est-ce que dans ta famille, du coup, est-ce que ton père levait aussi la main sur ta mère? Est-ce que tu as vu des scènes où, du coup, c'était plus particulièrement vis-à-vis de son enfant?
Ouais, c'était.
Verbal, peut-être?
Oui, c'était verbal, mais après, je pense que, ben, en fait, pour moi, il y a plusieurs violences. Quand tu es déjà en couple avec quelqu'un, et que tu amènes une autre femme, et que tu imposes cette femme à ton cercle familial, est-ce que c'est pas une violence psychologique?
Si. Si, on parle après d'emprise
Voilà,
psychologique
voilà.
et de
Donc, on va parler
manipulation.
d'emprise psychologique, de manipulation, de ce que tu veux, ce qu'on a pu déjà parler entre nous, voilà, des gens qui manipulent les autres en leur faisant penser que c'est eux les responsables, et voilà, tu vois, c'est ce qu'on avait déjà dit avant. Donc on est vraiment dans ce fait. Pour moi, c'est une certaine violence.
Ok. Et comment du coup tu as pu te reconstruire après le fait que ce soit pas normal, le fait que tu aies reçu ces coups-là? Comment aujourd'hui tu as pu, en tant qu'enfant, en tant que mineur encore, de dans ta reconstruction?
Bah écoute, nous on a été un petit peu tout au niveau religieux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais pour moi, en tant qu'enfant, d'ailleurs, j'étais encore, c'était juste un peu avant mes 14 ans, j'ai fait une ultime prière parce que je cherchais à savoir si vraiment il y avait un Dieu, tu vois. Donc j'ai posé la question à Dieu, à qui tu veux, voilà. Je voulais savoir quelle était l'Église qu'il a représentée, qui représentait notre Dieu, si, voilà, sur Terre. Et j'attendais une réponse. J'ai jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui, hein, de toute façon. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette orientation dont on a parlé, voilà, qui est plus dans une philosophie de vie plutôt que, voilà, une croyance réelle. Et donc après, je me suis reconstruit, ben difficilement, mais bon, comme j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir faire mon service militaire, tout ça. Donc ça m'a permis, ça m'a cadré quelque part, et j'étais même très volontaire. Donc j'étais très volontaire parce que ben voilà. Et c'est quelque chose qui j'avais des quelque part des règles strictes, si tu veux, mais en même temps ça me correspondait. Et même si c'était dur, en fait, j'étais déjà à la dure dans ma vie d'enfant. Donc si tu veux, ça me semblait pas plus dur qu'autre chose, en fait. C'était juste la continuité de ce que j'avais déjà vécu, puisque mon père aussi avait été militaire, tu vois. Donc, ce qui fait que ça m'a pas trop perturbé. Et j'étais même limite, j'étais bien, en fait. Ça,
donc, à 14 ans,
ça m'a aidé, quoi.
Ok. À 14 ans, du coup, t'as pris un peu le rôle
du père.
De l'homme ou du père pour protéger ta mère, pour protéger ta sœur.
Voilà.
Ta sœur, elle se faisait battre, du coup, il y avait...
Non, pas du tout, parce que comme elle était handicapée, non, elle non. Mais par contre, tout ce qui était fait ou qu'elle pouvait faire, elle m'était amputée à moi, quoi. Par contre.
Donc pour toi, t'as pris ton rôle à 14 ans de sauver ta sœur, ta mère et...
Si on peut dire ça comme ça, moi je ne vois pas forcément comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment pour que moi je sois vraiment safe, si on peut dire. Je me mette à l'abri de ça. Et pour pas qu'il se passe quoi que ce soit, parce que voilà. Par la suite, quand je ne vivais plus avec lui, c'est vrai qu'on a eu des accrochages aussi, parce que lui cherchait à me revoir ou quoi, bon ben voilà, mais moi je ne voulais absolument pas le voir. Et c'est vrai que, voilà, on a mis les choses au clair quand j'étais plus grand.
Donc aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à le pardonner?
Pour moi, il y a eu des causes à effet dans son comportement, parce que ben, lui aussi, je pense qu'il n'a pas eu une enfance facile non plus, hein, voilà, je ne dis pas le contraire. Après, tu n'es pas obligé de répercuter ce que tu as vécu de négatif et de le répéter bêtement. Pour moi, c'est un manque d'intelligence quelque part. Même s'il l'était, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas intelligent, mais pour moi, il n'a pas vraiment... il a subi des choses, effectivement, mais qu'il a répété. Qu'il a répété, et du fait de son mal-être, il a répercuté sur les gens qui l'entouraient.
Et aujourd'hui, donc, du coup, tu es papa quand même
oui.
De grands enfants.
Oui.
Quel était du coup ton rôle ayant subi de la maltraitance dans l'intrafamilial? Toi, comment tu as pu expliquer ou verbaliser à tes enfants? Est-ce que ton rôle, en tout cas, comment tu as pu le voir dans l'éducation que tu as voulu transmettre à tes enfants?
Ce que j'ai voulu transmettre, c'est surtout, il ne faut pas perdre le dialogue, en fait. Il faut vraiment essayer de dialoguer, essayer de mettre des mots sur des émotions. Surtout que mon fils, qui a aujourd'hui 9 ans, il est TDAH, donc il est médicamenté. Et donc, de ce fait, il faut tout essayer de verbaliser, de faire comprendre pourquoi tu as ces émotions-là, les gérer. Et donc, il faut essayer d'expliquer les choses, et des causes, des effets. Voilà, moi, c'est l'aider à se connaître lui-même, parce qu'en fait, pour pas qu'il ait ces réactions qui sont impulsives, sachant que le TDAH, c'est quelque chose qui est héréditaire et qui est transmissible, c'est-à-dire que les parents transmettent ça à leurs enfants.
D'accord. TDAH, voilà. Du coup, c'est une abréviation.
C'est trouble de l'apprentissage avec hyperactivité.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est disons que ça a réveillé chez moi une empathie, mais surtout un besoin d'expliquer les choses et pour aider. Pour moi, c'est vraiment expliquer les choses aux gens ou à mes enfants, mais à tout le monde. Pour essayer de verbaliser en fait ce qui se passe au niveau de nos émotions dans notre tête, même quand tu rencontres quelqu'un, en fait, si tu veux, il y a des gens qui portent atteinte à ta façon d'être, et inconsciemment, si tu veux, ton corps y réagit aussi. Et par exemple, ça va être une respiration, un battement cardiaque qui augmente, une pression que tu sens comme ça, en fait, si tu veux, pour moi, ton corps te parle quand tu as des émotions, quand tu vis des choses, ton corps te parle. Après, c'est à nous de savoir l'écouter. Mmh. Et quand tu arrives à écouter ton corps par rapport aux réactions, des interactions que tu peux avoir dans la vie, eh bien, tu te rends compte que ça porte atteinte à ta personne, plus ou moins. Et c'est vrai que ça, il faut essayer de promouvoir, essayer de faire comprendre aux gens que, il faut s'écouter pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Il faut être bien soi-même. Ça, c'est logique, en fait. Pour moi, c'est logique. Mais, c'est ce que j'essaye d'inculquer, de faire comprendre et d'expliquer. Après, peut-être que je suis pas dans le vrai, mais c'est ma façon de fonctionner aujourd'hui.
Oui. Ok. Est-ce que du coup, tu as encore des choses à nous transmettre? Si par exemple, aux personnes qui nous écoutent, des adultes aujourd'hui qui ont pu aussi vivre de la maltraitance, peut-être aussi des jeunes qui nous écoutent et qui aujourd'hui se disent qu'ils ont une certaine maltraitance avec les parents, qu'est-ce que du coup aujourd'hui tu aurais envie de leur dire?
On est ce qu'on pense. C'est la philosophie bouddhiste, mais on est ce qu'on pense. C'est-à-dire que si on pense qu'on est comme ça, ben, on deviendra forcément comme ça parce qu'on pense ça. Mais on peut être ce qu'on veut. C'est-à-dire que même si on a été pas bien, mauvais, on peut être autre chose aujourd'hui. Il faut vraiment penser qu'on a envie de changer, de nous changer nous-mêmes, parce que personne ne peut changer autrui, hein. Il faut vraiment que la personne ait envie de se changer elle-même. Donc on est ce qu'on pense.
Ok. Bon, ça va être les mots de la fin. Merci beaucoup et à très
De rien.
bientôt.
Merci à toi.
Merci.